Bonjour tout le monde et merci beaucoup à Jean-Marie pour cette occasion de revenir ici pour une deuxième fois. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici pour une deuxième année. En fait, pendant le cours, j'ai réalisé que mon discours va devenir presque superflu. Ce que je peux raconter, c'est à peu près ce que tu disais, parce que tu as parlé à plusieurs reprises des matériaux poreux, des membranes poreuses, avec mésoporosité, macroporosité. On va revoir tout ça, peut-être sous un autre angle. Et donc, merci beaucoup aussi pour cette introduction dans le sujet. Donc, ça se complète parfaitement. Alors, donc, comme le titre indique, je vais parler aujourd'hui de structures poreuses, de matériaux poreux, et je vais focaliser essentiellement sur les applications en électrochimie. Alors, des matériaux poreux, vous les connaissez tous, ils sont un peu partout, dans la nature, dans des choses que vous manipulez tous les jours, donc, et aussi à toutes les échelles. Donc là, on est plutôt à une échelle macroscopique. Vous avez ici une éponge naturelle, vous avez du pain, vous avez une éponge de métal, et vous avez aussi à une échelle légèrement plus petite, vous avez ce genre de structure. Vous reconnaissez peut-être la porosité, ce que vous avez dans les os. Donc ça veut dire que si vous coupez un os, vous allez trouver ce genre de choses. Ici, ça c'est une coupe transversale d'une tige de bambou. Donc tout ça, c'est des matériaux poreux, pas forcément très organisés, mais quand même qui remplissent une certaine fonction. Et finalement, à la plus petite échelle, si on descend à l'échelle du nanomètre, on trouve ici des structures poreuses style zéolite. Alors, pourquoi la nature, elle fait tout ça? Parce qu'elle essaie de donner une fonctionnalité ou de remplir certaines tâches avec ces matériaux poreux. Donc, typiquement, alors il y a plein de raisons, mais typiquement, on essaie par exemple d'obtenir une stabilité mécanique tout en utilisant très très peu de matériaux. Donc ça, ça peut être une raison. Parfois, ça augmente la fonctionnalité de votre matériau, ça permet un transport de masse très efficace, on va revenir sur ça essentiellement pendant le reste de mon cours, une économie d'espace et plein d'autres raisons. Donc, la nature fait ça très très bien, et donc du coup, en électrochimie, on pose aussi la question, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de matériaux pour augmenter la performance de nos électrodes ? Pourquoi ? Parce que, et ça a été mentionné plusieurs fois par Jean-Marie, en électrochimie, vous avez essentiellement pratiquement tous les procédés que vous utilisez qui dépendent quelque part, soit directement, soit indirectement, de la surface active. Donc vous avez le problème de stockage d'énergie et de charge, donc Jean-Marie en a parlé plein de fois. Vous avez les mesures ampérométriques style capteur qui, dans certaines conditions, sont aussi dépendantes directement de la surface active, parce qu'on mesure un courant. Et en électrosynthèse, la quantité de produit que vous pouvez produire dépend aussi, quelque part, de la surface active. Donc on a tout intérêt d'augmenter de manière artificielle la surface d'une électrode, au lieu de travailler avec une électrode qui est parfaitement plane. Alors il y a plusieurs façons d'augmenter la surface d'une électrode et augmenter sa porosité. Il y a la possibilité d'introduire des porosités à différentes échelles. Et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, il y a la macroporosité. Donc là, vous avez des trous ou des pores qui font à peu près un micron ou un peu en dessous. Vous avez la mésoporosité, vous êtes entre 50 nanos et 2 nanos. Et vous avez la microporosité qui est en dessous de 2 nanomètres. Et très, très souvent, et ça se trouve dans les batteries, ça se trouve dans les redox flow cells qui ont été mentionnés par le professeur Giraud la semaine dernière, vous essayez aussi de combiner différents types de porosité pour obtenir un effet de synergie, donc obtenir une porosité hiérarchisée ou hiérarchique, parce que ça va améliorer encore plus la performance de votre dispositif. Alors, comment générer ce genre de porosité? Il y a plein de recettes dans la littérature ou plein d'approches et de concepts dans la littérature. Je ne peux pas tous les mentionner. Il y a le fameux dealloying, ça veut dire vous faites un alliage et à la fin, vous enlevez le métal le moins noble par un procédé chimique. Donc du coup, ça laisse des trous et vous retrouvez avec un squelette qui est extrêmement poreux. Il y a des dépôts amorphes qui peuvent vous donner une surface active très importante. Nous, on aime bien cette approche template. Donc en gros, vous utilisez un moule qui va être le gabarit autour duquel vous êtes en train de croître une structure. Et à la fin, vous enlevez le moule et vous obtenez des pores. Alors, quelques approches template, parce qu'en gros, tout ce qui va nous occuper le reste de l'après-midi, ça va être l'approche template, d'une manière ou d'une autre. Une approche template fait maison par Jean-Marie. Donc là, vous avez un template qui était au début une membrane poreuse à base d'aluminium et vous remplissez les trous de cette membrane avec un matériau, en l'occurrence c'est du métal, et à la fin vous enlevez le template et vous obtenez des bâtonnets que vous pouvez ensuite modifier et vous obtenez ici une électrode qui peut servir dans une batterie. Donc là c'est l'approche template à la Jean-Marie Tarascon. Après, vous avez une autre approche template qui repose à peu près sur la même philosophie, mais cette fois-ci, ce n'est pas des bâtonnets, mais vous avez ici des ports qui sont sphériques. Et donc là, les gens, ils ont fait des dépôts à la fois de matériaux poreux pour l'anode, pour la cathode, pour l'anode, pour la cathode. Et si vous mettez tout ça ensemble, ça donne une microbatterie qui a une très, très grande performance parce que vous avez une surface active qui est très importante. Et donc, ça devient très intéressant. Alors, comment faire ce genre de structure? Ça va nous occuper maintenant pendant quelques minutes parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans mon groupe à Bordeaux. Donc, on va utiliser des templates qui sont basés sur des billes et on s'inspire quelque part de ce que vous trouvez aussi dans la nature. Donc, je reviens sur la nature parce que dans la nature, vous avez déjà ce genre de structure. Alors, la résolution, elle n'est pas très bonne, mais vous voyez ici, il y a plein de trous, plein de pores qui sont à peu près de la même taille, qui sont extrêmement bien arrangés. Et en fait, c'est cet arrangement organisé de ces pores qui fait que l'aile de votre papillon est bleue. En fait, c'est une couleur structurelle et ce n'est pas une couleur qui repose sur l'utilisation d'un pigment ou d'un colorant. Okay, c'est uniquement l'interaction de la lumière avec ces structures poreuses qui fait qu'à la fin, il y a une lumière bleue qui ressort. Donc la nature sait très bien faire ce genre de choses et donc on essaie de faire ça aussi de façon artificielle. Alors, donc, on utilise une approche template et il consiste à suivre trois étapes essentielles. La première étape, c'est qu'on utilise des billes. Donc, c'est des billes soit de polystyrène, soit des billes de silice. On essaie de les mettre sur une surface qui va être notre future électrode. Deuxième étape, c'est qu'on va essayer de déposer un matériau par électrodéposition à travers de ce template. Et troisième étape, on enlève notre template ou gabarit ou moule. Et on finit avec une structure poreuse qui est en gros la réplique négative de ce que vous avez mis au début sur la surface. Et a priori, les billes peuvent avoir une taille qui va grosso modo de 50 à 100 nanomètres. Donc on est bien dans le domaine macroporeux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis très très longtemps. L'étape clé qui va nous occuper maintenant pendant quelques minutes, c'est comment on fait dans un premier temps pour obtenir ce template à la base, parce que ça va conditionner la qualité de la structure poreuse finale. Alors, il y a plusieurs façons d'assembler des billes sur une surface. Vous pouvez, par exemple, prendre juste une suspension de ces billes, une suspension dans l'eau, vous la mettez sur l'électrode, vous laissez évaporer votre solvant, et à la fin, vous récupérez quelque chose comme ça. Ça a l'air super joli, c'est presque parfait, mais c'est trompeur, parce que quand vous regardez cette structure, pas à cette échelle-là, mais à une échelle légèrement plus grande, vous voyez qu'il y a plein de fissures. Donc, si vous faites de l'électrodéposition à travers un template comme ça, votre métal, il va essentiellement croître ici, ici, mais il ne va pas croître dans la partie qui a été modifiée avec le template. Donc, ça marche éventuellement si vous voulez modifier des très, très petites électrodes, des micro-électrodes, par exemple, ça peut être une approche. Mais pour une grande électrode de plusieurs centimètres carrés, voire plusieurs décimètres carrés, ce n'est pas une approche valable. Donc, nous, ce qu'on utilise à Bordeaux et ce qu'on préfère largement, et vous allez comprendre pourquoi, c'est ce qu'on appelle la technique Langmuir-Blodgett. Alors, Langmuir-Blodgett, c'est a priori une technique qui a été développée il y a déjà très très longtemps pour assembler des monocouches de molécules amphiphiles sur une surface. Donc, vous avez une molécule qui a une partie hydrophile, ici en rouge, une partie hydrophobe. Si vous la mettez sur l'interface RO et vous comprimez cette monocouche, elle va s'organiser sous forme d'un film compact que vous pouvez ensuite transférer juste par trempage. Vous pouvez transférer cette couche de molécules sur votre substrat. Alors, ici, bien sûr, on ne va pas utiliser des molécules, mais on va utiliser, à la place des molécules, on va utiliser des billes à ce moment-là qui sont également amphiphiles. Et l'avantage, comme vous comprenez tout de suite, vu que je transfère couche par couche ces billes sur la surface, je peux faire des véritables architectures à la surface. Donc ici, vous voyez, on peut assembler trois couches de grande taille de pores et après des petits gradients, tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes un véritable architecte de la surface et ça, vous pouvez le faire uniquement avec cette technique-là. Vous ne pouvez pas le faire par la technique d'évaporation. Donc, grosso modo, ça se passe de la façon suivante. Vous prenez vos billes qui sont dans une pipette, vous les dispersez sur l'interface RO, vous comprimez avec des barrières, vous comprimez le film, et après, vous faites plonger votre substrat et vous le ressortez, et vous faites ça autant de fois que vous voulez. À la limite, ça fait, c'est un ordinateur qui fait ça pendant la nuit, et le matin, vous revenez, et vous avez 250 couches qui sont sur la surface de votre électrode. Donc ça, ça va être votre template. Typiquement, une cuve de Langmuir, c'est un peu comme ça. Donc c'est très simple, ce n'est pas un équipement très compliqué. Et vous contrôlez parfaitement, bien sûr, le nombre de couches de template. Ici, vous avez 1, 2, 3. Ils sont parfaitement bien organisés. Ici, vous avez beaucoup plus. Il y en a 10, je crois. Et à la fin, quand vous regardez votre template à la lumière, vous voyez qu'a priori, c'est très bien organisé parce que, comme pour le papillon que vous avez vu tout à l'heure, il y a tout un coup, il y a une couleur qui apparaît, bien que les billes de ces 10, ils étaient parfaitement blanches. Okay? Donc là, c'est un bon indicateur comme quoi votre modification, elle fonctionne bien. Vous avez une couleur verte, jaune, en fonction de l'angle avec lequel vous regardez votre substrat. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'avantage unique de cette technologie, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, on a fait un gradient. Donc, on fait vraiment du design, et d'où le titre dans mon exposé. Vous avez ici une couche de grands billes, des petits billes, encore plus petits, encore plus petits. Après, vous redevenez plus grand. Et donc, c'est fait couche par couche à la volonté de ce que vous voulez faire après. Maintenant, on passe à l'étape de l'électrodéposition. Donc, on va plonger tout ça dans un bain qui contient le sel métallique. Ça peut être pratiquement tous les métaux qui sont électrodéposables. Et vous commencez à appliquer un potentiel à votre électrode. Donc ici, vous mettez par exemple un potentiel négatif. Ça va conduire à la réduction de votre sel métallique. Le sel métallique se transforme en métal. Il va commencer à envahir cet espace entre les billes. Et alors, ce qui devient crucial pour nous en tant qu'architectes de la surface, c'est que cette croissance, elle est accompagnée par une oscillation extrêmement régulière du courant. Le potentiel est constant, mais par contre, le courant, il fluctue. Pourquoi il fluctue ? Parce que le courant est directement proportionnel à la surface active. Donc, quand vous commencez à croître votre couche ici, ben, vous avez une grande surface active. Quand vous rentrez dans l'espace entre les sphères, mais la surface active devient plus faible, donc du coup, votre courant, il diminue. D'accord ? Donc, vous pouvez suivre comme ça, vraiment au nanomètre près, vous pouvez suivre où se trouve votre dépôt à l'intérieur de votre template. Donc, quand je suis ici à mi-hauteur d'une bille, à une demi-couche de bille, en fait, ben, je vais avoir un minimum de courant. Ici, je reviens vers un maximum, je passe un minimum, je passe un maximum, etc. Donc, vous pouvez arrêter vraiment de façon extrêmement précise le dépôt et après le transformer en autre chose ou rajouter une autre couche d'un autre matériau par-dessus. Donc là, c'est un peu le résultat. Alors, on a fait plein de choses avec ce concept. Je vous montre juste 2-3 exemples. Donc là, ce n'est même pas un métal, c'est du polypyrrole. Et vous voyez, quand on a mis les billes avec un gradient, on a aussi ce gradient à la fin dans la couche poreuse. Ici, il y a des tout petits pores, après des grands pores, des très grands pores, et après, on redevient petit. Et ici, on fait exactement l'inverse. On commence avec un grand diamètre, et on va vers des petits diamètres, et on redevient grand. Et comme vous voyez ici, on peut même, à travers de la période des oscillations, on peut savoir quelle est la taille de la bille de mon template que je suis en train d'envahir avec mon dépôt. Donc, c'est un contrôle vraiment exceptionnel de ce qu'on fait à la surface de notre électrode. Et on a fait ça avec tous les métaux que vous pouvez imaginer, des oxydes métalliques et des combinaisons, parce que vous pouvez, à l'intérieur d'un même template, vous pouvez combiner une certaine épaisseur d'or, une autre épaisseur de platine, etc. Alors, une fois qu'on a ce genre de structure, on peut même encore les post-fonctionnaliser. C'est ce que je vous montre ici. Donc là, on a dans un premier temps, on a déposé du cuivre macroporeux. Donc ça, c'est le métal. Et après, on expose ce métal à une dissolution anodique. Ça veut dire qu'on applique un potentiel qui est positif. Donc le cuivre va partir partiellement en solution. Les ions de cuivre qui sont en train de se dégager de votre surface macroporeuse vont pouvoir réagir avec un ligand comme celui-là, ici. Et donc, vous allez former ce qu'on appelle les Metal Organic Frameworks, les fameuses MOF. Donc, tout d'un coup, vous avez transformé cette structure macroporeuse en une structure qui a maintenant une double porosité. C'est macroporeux d'un côté parce que vous avez les grandes autoroutes pour que les molécules, après, passent par diffusion. Et les parois sont constituées d'un matériau qui lui, est vraiment très, très poreux à toute petite échelle, donc c'est des MOF qui sont microporeux. Et vous voyez ici la transition entre le matériau initial qui est macroporeux, et là, vous avez encore la macroporosité, mais par contre, vous voyez que ce n'est plus le métal lisse, mais on a transformé tout le cuivre en un élément qui est maintenant le Metal Organic Framework, et après, on peut utiliser, par exemple, pour la catalyse, etc. Quand vous regardez votre dépôt final de votre matériau que vous avez généré à la surface, à nouveau, on a une bonne preuve de l'organisation de ce matériau parce qu'on voit qu'il y a des couleurs qui apparaissent. Donc ça, c'est à l'échelle du centimètre carré parce qu'il y a la diffraction avec la lumière qui fait qu'on a une couleur qui va être sélectionnée en fonction de l'angle. Donc pour nous, c'est toujours une bonne preuve comme quoi le matériau, il a bien été organisé à la surface. Alors tout ça, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est sur des surfaces planes. Mais on peut faire la même chose sur des électrodes qui sont en fait des fils ou des fibres. Et donc ici, un exemple où on prend une microélectrode, on va la décorer avec notre template. Donc ici, vous voyez, il y a une couche assez épaisse de billes que vous ne pouvez pas voir individuellement, mais ça fait presque une croûte qui a été obtenue par la méthode Langmuir-Blodgett. Donc vous plongez votre fil 150 fois aller-retour. Et après, vous faites l'électrodéposition, toujours en suivant les fameuses oscillations, et vous voyez qu'on peut les suivre sur presque 20 ou 30 cycles de dépôt, et à la fin, vous enlevez les billes, et vous avez maintenant une microélectrode, donc là, c'est l'électrode initiale qui était là. Toute la microélectrode, elle est extrêmement poreuse, et vous contrôlez parfaitement le diamètre, vous contrôlez parfaitement l'épaisseur. Alors, on peut faire des électrodes aussi avec une architecture plus complexe, on joue avec ce concept. Donc là, je vous montre juste un exemple qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, toujours basé sur la technique Langmuir-Blodgett, comme vous voyez là-haut. Donc on commence avec une surface qui est nue, on assemble par Langmuir-Blodgett, couche par couche, les billes, on passe à l'électrodéposition dans un premier temps, vu qu'on maîtrise parfaitement l'épaisseur, parce qu'on a les oscillations, on fait une couche et demie de pore en or. Ensuite, on passe à un dépôt qui, cette fois-ci, est composé de nickel, et on redépose par-dessus, on redépose une couche d'or. Donc maintenant, on a un matériau hybride. Je vais enlever la couche de nickel en exposant cette architecture à une solution acide. C'est tenu encore par des billes, donc ça ne peut pas s'effondrer. Je vais contacter tout ça avec un fil, et ici, je mets des supports pour qu'à la fin, quand j'enlève les billes, ça reste tel quel en termes de stabilité mécanique. Et donc, normalement, à la fin, je vais avoir une double électrode qui peut avoir le rôle de anode et de cathode, ou ça peut être, par exemple, une pile ou une biopile. Et vous voyez ici comment ça se présente expérimentalement. Donc là, vous voyez le fameux dépôt d'or, nickel, or. Si j'enlève, fur et à mesure, par etching, donc je prends de l'acide nitrique, j'enlève la couche du milieu et tout en stabilisant ici sur les bords avec un peu de support plastique, je vais à la fin avoir deux électrodes qui sont séparées et je contrôle parfaitement l'épaisseur de chacune de ces électrodes parce que je peux suivre les oscillations. Pendant la déposition de nickel, par exemple, si je n'attends pas cinq oscillations mais deux oscillations, mais l'espace final entre les deux électrodes va être beaucoup plus faible. Et je peux bien sûr aussi contrôler l'épaisseur ou la porosité de chacune de ces électrodes. Et donc, je peux jouer à volonté avec la géométrie, comme vous voyez là. Là, l'électrode B est beaucoup plus épaisse que l'électrode A. Je peux caractériser ça par voltmétrie. Par exemple, l'électrode B, qui a une surface qui est beaucoup plus importante, elle me donne un signal voltmétrique qui est celui en vert. Et la deuxième électrode ici, qui est beaucoup plus fine, elle donne ce signal. Et quand je fais un court-circuit entre les deux, forcément, ça me donne la somme des deux. Alors, donc, ça, c'est le concept. Je peux faire la même chose, cette fois-ci, pas sur une surface plane, mais je peux faire la même chose sur un fil. Donc là, vous obtenez exactement la même chose, sauf que maintenant, vous avez un cylindre. Donc, vous avez une double microélectrode coaxiale. Donc, l'électrode du milieu, elle est poreuse. Et après, au-dessus, vous avez une enveloppe qui est également poreuse. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'électrode de base qui est poreuse. Il y a un espacement que je contrôle parfaitement par la couche sacrificielle de nickel que j'avais mis, et j'ai une deuxième électrode qui est par-dessus, et donc maintenant j'ai une double électrode qui est tout à fait miniaturisable, donc elle ne fait qu'une centaine de micromètres, que vous pouvez ensuite imaginer de mettre, par exemple, comme biopile dans le corps en l'implantant, parce qu'elle a des faibles dimensions. Donc tout ça, c'est un peu pour illustrer la philosophie de fabrication de ces électrodes macroporeuses, et maintenant quelques exemples à quoi ils peuvent servir. Donc on a utilisé ces architectures pour faire plein de choses. Alors on a étudié la catalyse, électrosynthèse, les biopiles, j'ai déjà mentionné, la photonique, neurobiologie, etc. La liste, elle est non exhaustive. Donc je vais vous montrer juste quelques exemples pour vous montrer un peu l'étendue des applications potentielles pour ces électrodes poreuses. Juste avant, quelques considérations un peu plus techniques. Si vous prenez une électrode poreuse comme ça, vous pouvez vous dire, mais quelle est la surface que je vais gagner? Est-ce que j'ai besoin de 150 couches pour avoir une augmentation de surface ou une amélioration de mon courant? La réponse est non. En fait, vous voyez ici, à travers de cette étude, même trois couches, même pas trois couches, deux couches et demie de billes vous augmentent le courant. Ce que vous voyez là, ici, on passe de A à B à C. Le courant qui est en fait directement associé à la surface active, d'un facteur 10. Vous passez de 0,19 mm² de surface active à 2 mm². Donc vous avez un facteur 10 gagné juste en mettant deux couches et demie. Et donc le facteur d'amélioration ou d'augmentation de surface, qui est exprimé ici de manière un peu théorique, il dépend seulement du nombre de couches, mais il dépend, et donc c'est un peu bizarre peut-être à première vue, il ne dépend pas de la taille de vos pores. Okay ? On aurait peut-être l'intuition de dire, ah ben, si je fais des pores qui sont très petits, je devrais gagner un peu plus en surface active. Or, si vous restez avec le même nombre de couches de pores, vous gagnez exactement la même chose, peu importe si les pores ils font 1 micromètre ou ils font 50 nanomètres. Okay ? Mais en mettant deux couches et demie, vous avez un facteur 10 déjà de gagner en surface active. Une précaution que j'aimerais bien mentionner, c'est la suivante. Il faut faire attention, quand vous avez ces électrodes poreuses, ils améliorent la performance, pas toujours, ça va dépendre quel couple redox vous utilisez pour vos réactions, parce que vous avez des couples redox rapides qui, eux, ne bénéficient pratiquement pas de cette augmentation de surface, parce que vous imaginez un couple redox rapide, il va surtout réagir à la surface externe de votre couche poreuse, donc il ne bénéficie pas de tout ce qui est à l'intérieur, donc il ne va pas explorer la porosité en interne. Donc vous voyez ici un couple rapide typique, c'est du ruthénium, et vous avez ici la surface plane, donc elle n'est pas du tout poreuse. Vous passez à une demi-couche, trois demi-couches, cinq, sept, neuf demi-couches, il ne se passe pratiquement rien. Vous gagnez que dalle. En fait, vous gagnez quelque chose entre la première expérience où l'électrode elle est plane et la deuxième expérience où vous avez des corbeilles. Donc là, vous gagnez, mais après, en fait, le couple redox ne bénéficie pas de cette surface augmentée. Par contre, pour un couple lent, et donc là, j'ai pris l'exemple de la réduction de l'eau oxygénée, pour un couple redox lent, là, vous avez une augmentation qui est directement proportionnelle au nombre de couches poreuses. Donc là, c'est l'électrode plane. Vous avez une demi-couche de pore, trois demi-couches de pore, cinq, sept, neuf. Et vous voyez qu'il y a une augmentation du courant qui est directement proportionnelle par rapport au nombre de couches que vous avez créées. Donc là, ça a tout un intérêt. Alors on pourrait se dire, ben c'est bien, à ce moment-là, je continue, je ne mets pas 9 demi-couches, je mets 11, 13, 15. Alors pourquoi je dis toujours demi-couches et je finis toujours avec un nombre impair? C'est qu'en principe, on synthétise ces électrodes pour que la dernière couche elle soit ouverte. D'accord? Donc c'est une demi-sphère en fait. Et pourquoi je ne vais pas plus loin? Pourquoi je ne fais pas 25 couches ou 35 couches? Mais en fait, à un moment donné, il y a une limitation, parce que si votre couche poreuse devient très très importante, mais vous n'avez pas la possibilité d'explorer l'ensemble de la surface interne avec votre couple redox. Et on voit ça ici avec cette simulation, parce qu'on a les gradients de concentration qui vont pénétrer jusqu'à une certaine profondeur à l'intérieur de la couche poreuse, mais si vous rajoutez 100 couches poreuses supplémentaires, ça n'a aucun sens. Okay? Donc il y a une espèce d'optimum pour l'épaisseur de votre électrode poreuse, et le reste, au-delà, ça ne sert strictement à rien, donc vous l'avez synthétisé pour rien. Donc on peut faire ça par modélisation, et on trouve, dans notre cas, pour les couches actuellement en étude, on trouve une limite vers 19 demi-couches où on a, pour un certain couple redox, où on n'a plus d'intérêt d'augmenter la surface active. Alors, quelques applications pratiques. Donc là, un premier exemple, on a utilisé ces électrodes poreuses pour faire de l'analyse de cadmium et de plomb. C'est des éléments que vous n'aimez pas trop avoir dans votre eau de robinet. On a pris un métal un peu bizarre, c'est de l'antimoine. On peut aussi prendre du bismuth parce qu'ils ont des propriétés qui sont un peu particulières. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si on fait donc ce qu'on appelle une stripping voltammetry, donc ça veut dire qu'on va, comme un aspirateur, on va, dans un premier temps, on va accumuler les cations, soit de cadmium ou de plomb, à l'intérieur de la couche poreuse. Et après, donc ça se fait par réduction. Et après, on les ressort par oxydation. On va obtenir ce qu'on appelle des stripping peaks. Et là, vous comparez, par exemple, une électrode qui est lisse en A pour le cadmium et pour le plomb. Et plus vous augmentez la porosité, ça veut dire le nombre de couches de pores, plus vous augmentez votre signal analytique. Et donc là, avec les couches poreuses les plus épaisses, vous arrivez à une limite de détection qui est en dessous du ppb, ce que vous ne pouvez pas faire avec une électrode plane. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, également du domaine analytique, mais là, c'est un peu exotique. On a essayé de déterminer la concentration de cuivre de plus dans une boisson qui s'appelle mezcal. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un alcool fort du Mexique. Et leur problème, c'est quand ils font la distillation, ça se fait dans des chaudrons de cuivre. Donc ça veut dire que vous avez toujours une pollution de ions de cuivre dans ce liquide. Et donc si on utilise nos électrodes macroporeuses à base d'un certain polymère, c'est un polymère conducteur que vous voyez ici, on a la possibilité de détecter avec une très bonne précision la concentration de cuivre dans cette boisson. Et donc ça, c'est la gamme de concentration qui est vraiment la gamme de concentration qui est importante pour les applications pratiques, parce que c'est ces concentrations-là que vous trouvez dans votre verre de schnapps. Okay. Troisième application, réduction de l'oxygène, qui est très important pour plein d'applications dans les piles à combustible. Donc vous voyez ici, si je compare tout simplement une électrode qui n'a pas été modifiée avec des pores, donc c'est ce que vous voyez là, et après une électrode qui a été modifiée avec un nombre croissant de macropores, alors là ici je crois le diamètre c'est 600 nanomètres, vous voyez ce qui se passe, non seulement vous gagnez en courant, mais vous gagnez aussi en potentiel, ça veut dire que vous décalez votre potentiel vers des valeurs de plus en plus positives pour réduire l'oxygène. Donc ça c'est un double intérêt d'utiliser ces électrodes macroporeuses. Et le dernier exemple, c'est pour une électrode qui n'a pas été post-modifiée, donc elle est uniquement poreuse, c'est ici l'électrooxydation de méthanol, également pour les piles à combustible. Vous regardez que la partie de droite, vous comparez ici le courant d'oxydation du méthanol pour une électrode lisse, donc là c'est des électrodes en platine, ensuite une électrode macroporeuse, une électrode mésoporeuse, je vais y revenir sur la mésoporosité, comment on la génère un peu plus tard. Et ici, une électrode qui est en fait hiérarchique, ça veut dire qu'elle a à la fois des mésopores et des macropores. Et il faut faire attention parce que l'échelle ici sur la gauche, c'est une échelle logarithmique. Vous avez donc entre l'électrode qui est plane et l'électrode qui a été modifiée avec une combinaison synergétique entre méso et macropores, vous avez 3 ordres de grandeur d'augmentation de courant. D'accord ? Donc vous augmentez d'un facteur 1000, vous augmentez votre courant d'oxydation du méthanol juste en modifiant la surface de votre électrode avec ces structures poreuses. Alors ça, c'était des exemples avec des électrodes qui sont uniquement, entre guillemets, poreuses, mais c'est que du métal ou c'est que du polymère conducteur. Mais parfois, on veut mettre quelque chose à l'intérieur pour donner une fonctionnalité supplémentaire à ces électrodes. Et donc là, je vous montre un exemple comment on peut modifier de façon contrôlée à nouveau l'intérieur de ces pores. Donc là, vous avez une approche qui repose sur l'utilisation de ce qu'on appelle une peinture électrophorétique. Donc vous avez un polymère qui initialement est soluble parce qu'il y a des groupements carboxyles qui sont chargés. Si vous changez le pH, alors soit chimiquement, soit électrochimiquement, parce que vous pouvez appliquer un potentiel positif, ce qui va conduire à l'oxydation de l'eau, donc ça veut dire libérer des protons, et donc ça va protoner ces groupements carboxyles. Tout d'un coup, ce polymère devient neutre, il va précipiter. Et il va précipiter où ? Mais il va précipiter à l'intérieur de nos pores macroporeux. Donc là, vous voyez la structure macroporeuse initiale. Et ce que vous voyez en plus clair, ça, c'est le polymère qui également est poreux. Alors, c'est une porosité pas très bien organisée, mais c'est quand même une porosité très importante. Et si jamais, pendant la précipitation de cette matrice de polymère, vous avez quelque chose qui est dans votre solution, ici, en l'occurrence, c'est une enzyme, mais vous pouvez co-immobiliser avec le polymère, vous pouvez co-immobiliser l'enzyme à l'intérieur de ces pores et après augmenter les courants catalytiques, bioélectrocatalytiques de ces électrodes. Et donc tout ça, c'est dans le but de fabriquer des biopiles qui sont miniaturisées. Vous vous souvenez de l'électrode coaxiale que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez une électrode au milieu qui est poreuse et une espèce d'écorce autour qui est également poreux, vous pouvez, en les adressant individuellement et en déposant donc ce polymère ou précipitant ce polymère en présence d'enzymes, vous pouvez immobiliser une enzyme qui réduit par exemple l'oxygène ici à l'intérieur, une autre enzyme qui oxyde le glucose ici à l'extérieur, et vous avez une biopile extrêmement compacte, miniaturisée, qui peut après éventuellement s'implanter dans le corps. Tout ça, c'était maintenant la macroporosité. Donc là, on a des pores qui sont assez grandes. Et je voulais consacrer aussi un peu de temps aux électrodes mésoporeuses. Alors là, on ne peut pas utiliser des billes pour fabriquer ces électrodes, parce que ça voudrait dire qu'il nous faut des billes qui sont quelques nanomètres, et donc là, ça devient très compliqué de faire du Langmuir-Blodgett, etc. Donc là, on utilise une autre philosophie. En fait, notre template, notre gabarit, notre moule, maintenant, c'est des molécules. Et en fait, ce qu'on fait, on va utiliser des surfactants. Et quand vous mettez ces surfactants dans l'eau, en fonction de combien vous mettez, quelle concentration vous mettez dans l'eau, vous allez traverser ici un diagramme de phase. Donc, en fonction de la concentration et la température, vous avez différentes phases. Vous avez soit des micelles, vous avez des structures lamellaires, ou vous avez ce genre d'arrangement de bâtonnets. Et en fait, c'est cette dernière qui nous intéresse. Donc, on va se mettre dans une partie du diagramme de phase qui correspond à cette partie bleue. Donc, on va mélanger de l'eau avec ce surfactant. On va rajouter notre sel métallique qu'on veut réduire et on va essayer de faire croître des structures mésoporeuses parce que typiquement, les dimensions de ces cylindres ici, c'est quelques nanomètres en fonction de la longueur de votre molécule amphiphile. Donc, ça, c'est à nouveau le concept. Donc là, c'est votre molécule. Le surfactant, il a un groupe polaire, hydrophile, une chaîne hydrophobe. Il va s'auto-assembler, si vous êtes dans cette partie du diagramme de phase, il va s'auto-assembler pour faire d'abord des disques et à la fin, les disques ils vont s'empiler pour faire un cylindre. Ce cylindre ou ces cylindres vont être sur la surface de l'électrode. Ils sont entourés par de l'eau et l'eau contient aussi votre sel de platine, en l'occurrence. Le sel de platine va se trouver uniquement entre les bâtonnets parce que le milieu des bâtonnets est complètement hydrophobe, donc le sel et l'eau ne vont pas y aller. Vous appliquez un potentiel négatif, ça va vous réduire le cation métallique ou le précurseur métallique et vous êtes en train de croître votre structure métallique autour de ces bâtonnets supramoléculaires et à la fin, vous passez par une étape de lavage, vous enlevez à la fois le surfactant et aussi un peu de sel qui peut être resté et qui n'a pas été transformé en métal et vous avez une structure mésoporeuse. Alors tout ça, c'est connu, ça a été reporté dans la littérature déjà il y a très très longtemps. Mais nous avons récemment utilisé cette approche pour lui rajouter une fonctionnalité supplémentaire que nous aimons beaucoup. Et en fait, on essaie de faire avec cette méthode d'impression, parce que vous faites une impression de structures poreuses dans le métal, on veut imprimer non seulement des structures mésoporeuses à l'intérieur du métal, mais aussi une information qui, dans notre cas, est une information très particulière. En fait, c'est une information sur la chiralité de molécules. Alors, ça veut dire quoi ? Je reprends notre structure sous forme de cylindre. Vous voyez, on a ici à l'intérieur la partie hydrophobe, à l'extérieur qui est la partie hydrophile. Donc là, c'est un surfactant un peu spécial qui s'appelle Bridge. Si vous rajoutez dans ce mélange eau, surfactant, sel de platine, vous rajoutez en plus une autre molécule organique et cette fois-ci, on a utilisé une molécule qui a une certaine chiralité, soit gauche ou droite. Donc c'est la DOPA. Cette molécule qui est également hydrophile, parce qu'elle a ici des parties qui sont hydrophiles, ici des parties qui sont hydrophiles, elle ne va certainement pas être à l'intérieur du cylindre, mais elle va s'absorber à la surface de votre cylindre de surfactant. Et maintenant, vous imaginez, vous êtes en train de croître du métal en partant par le bas, ici. Oups, pardon. Vous êtes en train de croître du métal à partir d'ici. Le métal va non seulement enrober votre cylindre pour faire les mésopores, mais il va aussi enrober les molécules chirales qui ont été positionnées sur la surface de cet assemblage supramoléculaire. Donc si à la fin, vous êtes en train de dissoudre votre surfactant et la molécule qui vous a servi comme template chiral, de manière un peu imagée, vous vous retrouvez avec une mésopore et dans les parois de cette mésopore, vous avez créé des cavités qui ont retenu l'information moléculaire, en l'occurrence ici, la chiralité de votre molécule à la base. Alors, ça paraît un peu fou. Ça a été beaucoup utilisé avec des polymères, ce qu'on appelle des MIP, Molecular Imprinted Polymers, mais ça n'a jamais été fait avec des métaux. Donc, ça marche, même si ça paraît un peu fou. On obtient des structures métalliques qui sont extrêmement mésoporeuses. Ici, vous voyez, c'est une image thème. On a bien les mésopores. C'est très homogène, c'est du platine. On peut caractériser par voltamétrie cyclique. On voit bien qu'on a augmenté par rapport à une surface qui n'est pas poreuse, on a augmenté la surface active parce qu'on a des mésopores. Et maintenant, on veut regarder si vraiment cette structure métallique, elle a retenu une information moléculaire. Ça veut dire si l'information chirale est encore présente dans le métal, bien que j'ai enlevé tout. Il ne me reste que le squelette métallique. Alors, donc l'idée, c'est la suivante, à nouveau de façon très schématisée. On a cette cavité chirale, quelque part à l'intérieur des mésopores, et en fait, il y en a plein. Et on suppose que cette cavité interagit de façon préférentielle avec un énantiomère et pas avec son image miroir. Donc il devrait avoir une certaine sélectivité en termes de réactivité pour un énantiomère et pas pour l'autre. Alors si on essaie de faire ça sur une électrode qui n'est pas mésoporeuse, ça veut dire que vous faites une croissance de platine sans qu'il y ait du surfactant, mais juste une croissance de platine en présence de votre molécule chirale, vous pouvez espérer peut-être aussi de laisser quelques footprints chirales quelque part sur la surface. Vous essayez d'utiliser cette électrode pour la reconnaissance chirale et vous voyez que dalle. En fait, ça, c'est presque la barre d'erreur. Ça veut dire que cette électrode n'est pas capable de distinguer entre une solution L-DOPA et une solution D-DOPA ou uniquement un tout petit peu. Donc là, il y a vraiment la mésoporosité qui a toute son importance. Sans mésoporosité, vous ne pouvez pas faire ce qu'on va faire dans la suite. OK? Alors, si on fait ça maintenant avec du platine mésoporeux qui était imprimé avec l'information chirale, tout d'un coup, si je imprime, en l'occurrence ici, du L-DOPA, et je plonge cette électrode dans une solution... Donc, si on imprime avec du L-DOPA et je... Et si vous faites la même expérience dans du D-DOPA, vous avez un courant qui est très différent. Et maintenant, vous faites l'expérience inverse. Ça veut dire que vous avez imprimé avec du D-DOPA, vous avez un signal qui est beaucoup plus grand si vous êtes dans une solution de D-DOPA par rapport à une solution de L-DOPA. Okay? Donc ça a l'air de marcher. On a fait plein d'expériences contrôle parce qu'au début, personne ne voulait croire. Et donc ces électrodes sont vraiment énantiosélectifs. Et on se dit, mais si vraiment ils ont une affinité pour un type d'énantiomère, est-ce qu'on pourrait utiliser ces cavités qui sont manifestement quelque part à l'intérieur des mésopores? Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour diriger de façon sélective un processus d'électrosynthèse? Donc l'idée, c'est la suivante. On commence avec une molécule qui est ce qu'on appelle prochirale, donc elle n'a pas encore une chiralité, et en réduisant ce groupement ici, on le transforme en alcool, on peut générer soit du R acide mandélique ou du S acide mandélique. Et on essaie de prendre une électrode qui a été imprimée avec une information soit R acide mandélique, soit S acide mandélique. Donc toujours avec la même philosophie, supposons qu'on a une cavité qui a une certaine chiralité. Quand je vais mettre ma molécule prochirale, ça va être plus favorable de donner du R par rapport à donner du S. Okay? Donc ça, c'est la philosophie. Et on a fait ça. Donc, premier exemple, ici en noir, donc ça c'est un diagramme de HPLC où on a utilisé une colonne chirale pour séparer les énantiomères. Premier exemple, cette électrode, elle n'a pas été imprimée avec un seul énantiomère, mais avec une mixture racémique des deux énantiomères. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas chirale. Et on obtient, en effet, on obtient les deux énantiomères avec exactement la même intensité. Donc on n'a pas de ratio significatif par rapport à un ou l'autre énantiomère, c'est pratiquement 1. Par contre, si j'imprime mon électrode qui va servir à la synthèse, si je l'imprime avec un certain ratio d'acide mandélique R par rapport à la quantité de platine, donc ce qui ici, là, les 0,012, c'est le ratio d'acide mandélique par rapport aux platines, je vais obtenir un excès de molécules acide mandélique R par rapport aux molécules acide mandélique S. Donc c'est la courbe rouge. Et si j'imprime plus d'acide mandélique, ça veut dire que j'augmente la densité de sites de reconnaissance à l'intérieur de la structure mésoporeuse, je vais augmenter aussi l'excès énantiomérique, sauf que ça se termine à peu près à 18%. Ça veut dire qu'on peut pas, on a essayé d'aller plus haut, on a essayé d'augmenter ici cette valeur, aller à 0,2, 0,3, etc. On n'arrive pas à dépasser les à peu près 20% pour la simple raison, c'est si vous avez trop d'acide mandélique dans ce mélange entre surfactants, sel de platine, etc., vous allez sortir de votre diagramme de phase que je vous ai montré au début. Ça veut dire que vous n'avez plus la phase bleue qui nous donne les colonnes, et donc du coup, ça fait n'importe quoi. Alors, donc on était un peu embêtés parce que 18%, ça n'intéresse personne. Avec 18%, c'est très joli d'un point de vue académique, mais c'est complètement inutile. Donc on a essayé de comprendre pourquoi on est limité à 18%, et en fait, de façon un peu schématique, on pense que ce qui se passe, c'est la chose suivante. Sur une structure mésoporeuse imprimée avec l'information chirale, grosso modo, on a trois types de sites réactifs. On a le site qui nous intéresse ici, ça veut dire que c'est la cavité chirale qui se trouve sur la paroi de notre mésopore. Mais on a aussi, à l'intérieur de la mésopore, on a d'autres sites qui n'ont pas d'information chirale. D'accord ? Et surtout, on a ici, à la partie externe, on a des sites qui n'ont aucune information. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été imprimés parce que c'est la partie extérieure de votre électrode. Donc quand vous allumez le potentiel pour faire la conversion de votre molécule à chirale pour donner un énantiomère, il y a la majorité des molécules qui réagissent ici à la partie extérieure. Ceux qui sont à l'intérieur et qui réagissent, ils donnent un excès énantiomérique, mais cet excès énantiomérique, il est dilué par le non-excès énantiomérique ici à l'extérieur. Ça veut dire que vous faites du coup un faible excès énantiomérique qui est autour de 20%. Donc on s'est dit, on va essayer de contourner ce problème et on va faire ce qu'on appelle l'électrosynthèse pulsée. On va appliquer le potentiel pendant un temps très court. Ça veut dire qu'on va transformer essentiellement les molécules qui sont ici absorbées dans les sites sélectifs. Après, on va laisser relaxer le système. Ça veut dire ce qui à l'intérieur peut sortir, ce qui à l'extérieur peut rentrer. On réapplique le potentiel, etc., etc. On fait ça très très longtemps. Et on regarde quel est l'impact de la durée de nos impulsions sur la sélectivité. Et ce qu'on voit, c'est la chose suivante. Si je fais du steady state, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'applique tout le temps mon potentiel, j'ai le même problème que tout à l'heure. Pratiquement tout le monde réagit à la surface externe de ma structure poreuse et donc je ne bénéficie pas de l'information chirale qui existe à l'intérieur. Donc je finis ici, parce que là c'est une autre molécule en fait. Là on a transformé de l'acétophénone en phényléthanol, mais c'est à peu près le même concept. Je finis avec 13%, donc à nouveau ridicule comme les 18% tout à l'heure. Par contre, si je fais par pulsation, et plus les impulsions sont courtes, plus j'augmente mon excès énantiomérique. Donc si je fais des impulsions très courtes, de quelques secondes, et après j'attends que le système se rééquilibre, ça veut dire que les molécules prochirales rentrent, et ceux qui ont été déjà transformés, ils peuvent ressortir, j'ai fini avec un excès énantiomérique de 91%. Et vous le voyez ici sur le diagramme HPLC, vous avez ici, ça c'est pratiquement steady state. Là, vous avez une petite impulsion, encore plus petit, encore plus petit. Donc, le R disparaît parce que votre électrode mésoporeuse a été imprimée avec l'énantiomère S. Okay. Alors, vu que ça marche tellement bien, on s'est dit, mais on va utiliser ces structures poreuses aussi, pas seulement pour la synthèse, mais on va les utiliser aussi pour la séparation des molécules chirales. Donc là, maintenant, ce qu'on fait, on prend un microcanal, donc un dispositif microfluidique, et à l'intérieur du microcanal, on va déposer par voie électrochimique, on va déposer notre structure mésoporeuse métallique imprimée avec l'information chirale, et on va utiliser ça pour faire passer après un fluide qui contient les deux énantiomères d'un racéma, en espérant que pendant qu'il traverse le canal, il y a un énantiomère qui interagit plus favorablement avec la surface métallique que l'autre, et il sorte à la fin avec un léger décalage. Donc c'est un peu le dispositif que vous voyez là. Donc là c'est l'injection, vous avez le tryptophane, vous avez l'eau, là c'est le microcanal. Si j'ai agrandi, grosso modo ce qu'on a fait c'est qu'on a décoré le plafond, on a décoré le sol avec notre structure mésoporeuse et après on pousse les molécules, juste avec une pompe, on pousse les molécules à travers de ce canal et on regarde ce qui sort à la fin. Alors, les premières expériences étaient complètement décevantes parce qu'on obtenait à la fin, on obtenait ce qui sortait là parce qu'on le détecte par fluorescence, on obtenait une grosse patate, mais pas de séparation. Donc on s'est dit, c'est emmerdant parce que là, on a fait plein d'efforts. Ça nous a coûté presque 6 mois de construire le dispositif microfluidique avec la détection fluorométrique. Donc on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, ça ne va pas. Et on s'est dit, vu que maintenant j'ai une structure métallique Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je peux appliquer un potentiel sur cette structure métallique. Et Jean-Marie, tout à l'heure, il parlait des supercapaciteurs. On met un potentiel dessus pour extraire des ions parce qu'on augmente l'interaction électrostatique. Mais là, on a appliqué un potentiel positif sur les deux phases métalliques. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui a un groupement carboxyle qui est chargé négatif. Donc, normalement, je vais augmenter l'affinité ou l'interaction de ces molécules avec la phase mésoporeuse. Et le résultat est exactement ce qu'on a espéré. Donc, comme je vous ai dit, à 0 volt, si j'applique rien du tout à ma phase métallique, les molécules traversent. La molécule R, elle commence à sortir exactement au même moment que la molécule S. Donc, en gros, on peut s'imaginer qu'il y a une distribution bimodale sous cette patate, mais c'est vraiment de l'imagination. Par contre, dès que j'applique un petit potentiel positif sur le plafond mésoporeux et le sol mésoporeux, je commence à avoir une séparation qui pointe du nez. Si j'augmente un petit peu la tension, 200 millivolts, j'ai une séparation de ligne de base de ces deux énantiomères. Donc, ils sortent maintenant vraiment de façon complètement séparée à cause de l'interaction spécifique avec la phase mésoporeuse chirale. Et tout ça, c'est stable, c'est étonnamment stable. On peut réutiliser la même phase stationnaire au bout d'un mois et on voit encore une fois cette séparation. Et si j'injecte chaque énantiomère tout seul, le D-tryptophane, le L-tryptophane, ça sort exactement au bon temps de rétention. Donc j'ai créé vraiment un micro-canal qui est énantiosélectif grâce à la présence de ces structures métalliques mésoporeuses. Dernier exemple avant de conclure, c'est... Alors, l'année dernière, quand je suis passé ici, j'ai parlé de ce qu'on appelle électrochimie sans fil ou électrochimie bipolaire. Donc on s'est dit, tiens, ça c'est un système qui pourrait être rigolo de l'intégrer dans un système d'électrochimie sans fil. Donc on a construit... Alors ceux qui n'ont pas l'information sur l'électrochimie bipolaire, je m'excuse parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais vous pouvez regarder à la limite la vidéo de l'année dernière. Donc là, ce qu'on fait, on va construire un objet bipolaire avec d'un côté notre structure mésoporeuse imprimée avec une information chirale. C'est intimement lié à un morceau de polypyrrole. Ça, c'est la vue de dessus et ça, c'est la vue de côté. Donc là, cette partie-là, c'est la partie sélective, énantiosélective. Là, c'est du polypyrrole. Donc ça, ça va être mon objet qui va jouer le rôle d'électrode bipolaire. Je vais l'insérer dans une cellule d'électrochimie bipolaire où j'ai mes deux électrodes d'alimentation. Mon objet est fixé ici sur un socle et je vais appliquer entre les deux électrodes, je vais appliquer un potentiel qui va faire que mon objet va se polariser. Donc mon objet côté métallique va se polariser delta plus parce qu'il est en face de l'électrode négatif. Ici, côté polymère, ça va se polariser delta moins. Donc, grosso modo, ici, je peux conduire, si la polarisation est suffisamment forte, je peux conduire ici une réaction d'oxydation. Donc, je vais oxyder ici une molécule chirale. Ici, je peux faire une réduction. Alors, quand je réduis un polymère conducteur, vous savez que c'est accompagné par un échange de ions entre le polymère conducteur et la solution. Et normalement, ça conduit à un gonflement ou à une, comment on dit, shrinking, à un redressement du polymère conducteur. Et si les deux faces du polymère conducteur ne sont pas équivalentes, et c'est ce que vous voyez là, il y a une face qui est lisse, l'autre est rugueuse, cet échange d'ions va avoir lieu essentiellement sur la face rugueuse, donc le gonflement va avoir lieu préférentiellement sur un côté de, ou une face de votre polymère conducteur et pas sur l'autre. Donc ça veut dire que le résultat, ça va être que le polymère conducteur, il va commencer à fléchir. Donc il va changer de structure. Et donc on va essayer d'utiliser ça pour détecter de manière maintenant complètement exotique la présence d'une molécule chirale parce qu'ici, c'est la partie qui est énantiosélective. Et ça, ça va être en quelque sorte mon readout. Ça veut dire que c'est mon signal analytique. Et ce qu'on obtient, si on fait cette expérience, donc là, on a imprimé le platine avec l'énantiomère R et on expose l'ensemble dans ma cellule électrochimie bipolaire à une solution d'acide mandélique avec la chiralité R. Je vois que mon polymère conducteur, qui initialement était sur la position verte, maintenant il est dans la position rouge. Par contre, l'objet qui était dans la mauvaise solution, ça veut dire dans l'énantiomère S, la déflexion elle est beaucoup plus faible. Et si j'ai fait l'expérience contrôle, ça veut dire que je prends du platine qui a été imprimé avec l'énantiomère S et je l'expose à une solution d'acide malélique R, on n'a pratiquement pas de déformation. Par contre, si je l'expose à une solution qui contient de l'acide malélique S, on a une énorme déflexion. Et donc tout ça, ça peut se voir en direct par vidéo. En gros, on revient sur ce résultat, sauf que vous voyez le changement en fonction du temps, et c'est assez flagrant. L'objet bipolaire qui a la mauvaise chiralité, mais il ne bouge pratiquement pas, et l'objet chiral qui a la bonne chiralité, il bouge de façon assez extrême. Tout ça pour dire que avec ces métaux mésoporeux imprimés avec une information chirale, on peut non seulement faire de l'électroanalyse, mais on peut faire aussi de l'électrosynthèse que je vous ai démontré. On peut séparer des molécules et on peut même détecter de façon un peu exotique la déformation d'un polymère en fonction de quel énantiomère est dans la solution. Je vais conclure avec un résumé de l'ensemble de ces travaux, à la fois macroporeux et mésoporeux. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'avec ces deux techniques, qui tous les deux reposent sur l'utilisation d'un template, alors soit c'est les billes, soit c'est un surfactant, donc c'est un template moléculaire ou supramoléculaire, on peut faire des choses extrêmement bien organisées et extrêmement bien contrôlées sur la surface d'une électrode, donc soit des pores comme vous voyez ici avec des gradients, soit des structures mésoporeuses qui peuvent contenir une information moléculaire, voire une information sur la chiralité de votre template initial. Et donc je pense que c'est vraiment des approches qui sont extrêmement prometteurs pour plein d'applications, quelques-unes je vous ai montrées. Tout ça, ça n'a pas été fait bien sûr par moi, ça a été fait avec plein de personnes. En haut, vous avez des doctorants et des post-docs, ici des collaborations sur Bordeaux, après en France, après à l'international. Il y a eu pas mal d'argent de différentes sources et je vous remercie pour votre attention.